Et certaines versions, parce que ça existe dans certains manuscrits, rajoutent par grâce. Je vous invite donc à lire le texte qui entoure cette belle promesse, après quoi nous pourrons méditer ce verset. Voici ce que dit l'Écriture. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. En effet, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères et sœurs. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a aussi appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi donné sa gloire. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui, par grâce? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour de Christ? La détresse? L'angoisse? La persécution? La faim? La misère? Le danger? Ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture, à cause de toi, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à la prière. Ta parole est la vérité. Nous le croyons, mais nous avons aussi besoin de le vivre, de nous en souvenir et d'être fortifiés. Viens à notre aide, Seigneur, par ton esprit qui a inspiré cette belle parole. Amen. Il y a quelques années, au moment où nous découvrions tous le monde merveilleux, entre guillemets, d'Internet, j'ai reçu un de ces messages électroniques qui vous font brièvement rêver. Figurez-vous que j'étais sélectionné d'une façon tout à fait exceptionnelle pour gagner une BMW série 1. Ah ! Je savais pertinemment, parce que ce procédé existait avant par courrier postal, qu'en fait la sélection était loin d'être exceptionnelle. Je n'étais qu'un parmi des milliers d'autres qui avaient reçu exactement le même message. Autant dire que les chances de gagner étaient extrêmement minces, ce que la suite a parfaitement confirmé. Et des annonces qui promettent monts et merveilles, je n'ai cessé d'en recevoir depuis lors. Voiture géniale, somme mirobolante, séjour paradisiaque à l'autre bout du monde. Mes amis, autant de fausses promesses qui s'apparentent à un vrai matraquage publicitaire. Mais alors vous allez me dire, quel rapport avec le texte que nous venons de lire? Eh bien, celui de la promesse. La promesse que Dieu fait ici en son Fils livré pour nous. Ce que j'observe pour moi et pour beaucoup, c'est qu'à force d'être l'objet de promesses merveilleuses, qui ne se vérifie jamais. Pensez simplement aux promesses électorales dont certains hommes politiques nous disent avec cynisme qu'elles n'engagent que ceux qui y croient. Eh bien, à force d'entendre toutes ces promesses qui ne se réalisent jamais, nous devenons blasés. Et il nous en faut toujours plus pour réveiller notre capacité à croire. Et ces allers-retours incessants entre désillusion et espoir insensé tendent à influencer notre foi. Je ne m'explique pas autrement cette recherche de plus en plus marquée parmi une partie des chrétiens pour l'hyper-méga-extraordinaire, vous voyez ce que je veux dire ? Qui n'a d'égal que la misère intérieure de beaucoup de frères et sœurs qui n'arrivent pas à s'emparer des promesses de Dieu et à croire en sa bonté pour eux. Alors je voudrais vous montrer aujourd'hui à quel point les promesses de Dieu n'ont que peu à voir avec celles des hommes. Et le titre de mon message, c'est « quand Dieu s'engage, il tient ce qu'il promet. Et ce qu'il promet dépasse tout ce que vous pouvez, tout ce que je peux imaginer ou penser. » Vous savez, pour éprouver une promesse, il faut poser trois questions. La première, c'est « quelle garantie m'est offerte que celui qui promet peut me donner la chose ?» La deuxième, c'est « mais que me promet-il exactement ? Quel est le contenu ? Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il me promet ?» Et la dernière, qui n'est pas la plus mince, « qui peut en bénéficier ? À quelles conditions ? Est-ce que je suis simplement un parmi des milliers d'autres qui peut-être verra un jour la chose se réaliser ?» Et j'aimerais suivre ces trois questions pour scruter avec vous la promesse, lui qui n'a pas épargné, qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui, par grâce ? Alors la garantie, en fait la garantie c'est celle de la croix. Et vous savez, dans les contrats, les garanties en général sont marquées en tout petit. Vous savez, c'est les choses que vous ne lisez jamais avant de signer, mais qu'on vous rappelle toujours une fois qu'il y a eu un problème. Hein ? Et il y a un tout petit mot dans ce texte qui dit tout. Ce mot, c'est « aussi ». Lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce ? Ce mot « aussi » lie en fait le contenu de la promesse, ce qui est à venir, c'est-à-dire il va tout nous donner, avec le passé, ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il a accompli en son Fils, à savoir le sacrifice sur la croix pour notre péché. Alors, si vous y réfléchissez un instant, il y a là trois garanties, une triple garantie. La première, c'est un acte historique indéniable, au point que la croix, ou plutôt Jésus, il y a un avant et un après Jésus-Christ dans l'histoire de l'humanité. Tout tourne autour dans l'histoire de Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas, derrière cette promesse, d'un pari ou d'une spéculation. Je voudrais prendre une image bancaire, vous m'en excuserez j'espère, pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. En fait, Dieu a d'avance provisionné le compte qu'il nous destine. Le compte n'est pas à zéro, il est déjà plein. Deuxième aspect de cette promesse, c'est qu'elle repose sur un engagement d'une valeur inestimable. C'est son propre fils que Dieu a livré. La valeur de l'engagement du Dieu Tout-Puissant est celui d'un contrat scellé par le sang le plus précieux. Mes amis, à l'heure où le sang coule à nouveau à flot pour satisfaire les exigences d'Allah ou d'autres dieux, il n'est pas inutile de remarquer que Dieu ne dépouille personne, que le Dieu de Jésus-Christ n'exige ni otage, ni sang versé, mais qu'il pourvoit lui-même au sacrifice nécessaire pour le pardon. Pour le dire encore une fois en termes financiers, Dieu a non seulement d'avance provisionné le compte, mais la garantie qui accompagne ce compte, elle est illimitée. Une garantie illimitée de paiement. Troisième élément dans cette garantie, c'est que la promesse est tellement certaine qu'elle précise d'avance les bénéficiaires. Il l'a livré pour nous tous. Alors nous touchons là quelque chose qui est mystérieux et qui, quelque part, nous échappe. C'est la mystérieuse et incontestable souveraineté de Dieu que Paul évoque un peu plus tôt en ces termes dans ce texte. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés ou destinés. Ou bien dans la lettre aux Éphésiens, il est dit « Dieu nous a élus avant la fondation du monde ». Je ne suis pas sûr de bien pouvoir me représenter la chose. Sauf que, si je reprends mon image bancaire, cela veut dire qu'avant même que j'existe, que j'ai fait ou bien ou mal, Dieu a non seulement garanti le compte de façon illimitée, mais il a déjà émis un chèque à mon nom personnel. Au moment où Jésus est monté sur la croix, Simon, Christine, Gabriel, Brigitte, Étienne, nous étions déjà dans la pensée de Dieu pour le salut. Alors mes amis, quand il nous arrive de douter de l'amour de Dieu, parce que cela nous arrive, c'est que nous oublions qu'il n'a plus rien à nous prouver parce qu'il a déjà tout accompli en son Fils. Si vous me permettez l'expression, la garantie est en béton armé. Et je pense qu'il y a là un combat de la pensée à mener avec l'aide de l'Esprit Saint pour ne pas nous laisser troubler par le malin et par le monde qui lui est soumis, qui nous fait toujours douter de ce qui est déjà là, de la part du Seigneur. Alors maintenant que nous avons essayé de scruter la garantie, il faut scruter le contenu. Et le contenu, c'est tout. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout ? C'est un autre petit mot, à nouveau, qui définit le contenu de la promesse. Mais évidemment, ce mot mérite une attention particulière. Parce que quand j'entends tout, je me dis vraiment tout. Et je vais vous faire une réponse de Normand en disant oui et non. Non parce que, mes amis, ce n'est pas le tout du monde. Ce n'est pas le tout des discours publicitaires qui promettent la possession immédiate, le bonheur sans obstacle, la facilité permanente. Un sociologue disait avec raison, nos contemporains ne veulent qu'une chose, c'est tout et tout de suite. Ce n'est pas ce que propose l'Évangile. Du moins s'il est compris et annoncé droitement. L'Écriture parle d'espérance. Or, précise Romains 8, si c'est en espérance que nous avons été sauvés, alors nous attendons cette chose encore. Et ce même passage, celui que nous avons lu, ne cache pas que le chrétien ne sera affecté par les tribulations. Les questions, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ? Cela veut donc dire que le chrétien peut connaître toutes ces choses. Et rappelle ainsi ce passage, le besoin de la persévérance. Non, ce n'est pas le tout du monde. Et si nous sommes déçus par Dieu, c'est parce que nous ne comprenons pas bien l'Évangile ou parce que nous sommes aveuglés. Mais alors vous allez me dire, voilà encore une fausse promesse. Non, parce qu'il faut bien lire. C'est le tout avec lui. qui est précisé. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui? Et ce tout-là est fabuleux. Il se résume en une chaîne de bénédictions glorieuses à la suite du fils dont il est dit qu'il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Alors mes amis, qu'est-ce que c'est que ce tout avec lui? Eh bien écoutez, ça tient en trois phrases. Notre passé réglé par l'expiation, c'est-à-dire par la croix. Notre présent transformé par l'adoption, hein, le Saint-Esprit qui nous permet de dire « Abba, Père ». Et notre avenir assuré par sa résurrection. Regardez, le passé réglé, le présent transformé, l'avenir assuré. En un mot, notre vie entière changée par son intervention, et ce pour l'éternité. En un mot, mes amis, le tout de Dieu, c'est le tout de l'amour, dont Paul nous dit si bien que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Alors je précise, voyez, Dieu ne promet pas ici, ni ailleurs dans l'Écriture, de satisfaire notre insatiable convoitise d'hommes et de femmes pécheurs. Ah, comme nous aimerions tout maîtriser, tout avoir, être maître de tout, être Dieu. Cela, le Seigneur ne nous l'a jamais promis. C'est le diable qui l'a promis à Ève puis à Adam. Non, ce qu'il nous promet, c'est de nous accorder en son Fils, par l'Esprit, la pleine mesure d'amour qui nous permettra de vaincre les difficultés et de lui rester fidèle, quoi qu'il arrive. Pour les moins jeunes, vous vous souvenez peut-être de ces mots de Marie Laforêt. On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Et c'est cette tendresse de Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ. Alors la garantie de la croix, le tout de l'amour, et maintenant reste, mais pour qui tout cela et à quelles conditions? Et au risque de vous surprendre, mais attendez les explications. L'offre est sans condition. Dans mon expérience pastorale, je me suis rendu compte que beaucoup de chrétiens croient aux promesses de Dieu. Mais là où l'incrédulité se manifeste, c'est souvent, monsieur le pasteur, oui, mais ça c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, mais pas pour moi. Oui, nous croyons à la garantie offerte par la croix. Oui, nous croyons au contenu du tout avec lui dont je viens de parler. Mais nous avons plus de mal à croire que c'est pour nous. Pour d'autres peut-être, mais pas pour nous. Nous ne nous sentons pas dignes d'une telle promesse. Parfois même, nous nous surprenons à dire « Mais je ne mérite pas une telle faveur. Je ne pourrai jamais plaire au Seigneur. » Vous pensez cela ? Eh bien, permettez-moi de vous dire que vous avez raison. Vous ne le méritez pas. Vous n'êtes pas digne. Vous avez raison en ce qui vous concerne, mais vous avez tort en ce qui concerne Dieu. Car tout cela, comme le rendent certaines traductions, nous est donné par grâce. Excusez-moi. Par grâce. Une notion qui fait de la promesse divine quelque chose d'unique, qui peut se résumer ainsi. Sa gratuité est totale, elle est sans condition, la foi seule est requise. La gratuité est totale. Alors, je ne vais pas dans le bon sens. Tout, absolument tout, est cadeau de Dieu dans cette histoire. La croix de Jésus-Christ est cadeau de Dieu. L'appel qui a retenti dans votre cœur et cadeau de Dieu. J'espère que vous ne croyez pas que vous avez entendu l'appel parce que vous avez les oreilles un peu mieux nettoyées que les autres. La conviction de péché est cadeau de Dieu. La transformation de votre être est cadeau de Dieu. La protection est cadeau de Dieu. Et même, je vais ajouter une chose, le service est cadeau de Dieu. Vous savez, Dieu ferait beaucoup plus vite et beaucoup mieux les choses sans nous. Et pourtant, il nous fait le cadeau de nous utiliser dans son œuvre. D'où l'assurance inébranlable de Paul dans ce texte, puisque tout est l'œuvre de Dieu. Alors personne ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu. Deuxième réalité, tous, absolument tous peuvent être au bénéfice de la promesse. Marie, la sœur de Lazare, Pierre, qui a renié son maître, le brigand sur la croix dont nous ne connaissons même pas le nom, Paul, le persécuteur de l'Église, Izumi, un ami à moi, pianiste japonais. Et je voudrais vous raconter un peu plus en détail l'histoire d'une vieille femme musulmane au nord du Cameroun, dans une région malheureusement mise à feu et à sang par Boko Haram, une vieille femme musulmane en train de mourir, dont la famille va voir, selon la tradition, le marabout. Et vous savez qu'une des techniques en islam d'Afrique noire, c'est que le marabout écrit des versets du Coran sur le tableau, puis lave le tableau et fait boire l'eau avec cette craie à la femme en espérant qu'elle guérisse. Elle n'a pas guéri. Donc les membres de la famille sont venus voir les anciens de l'église baptiste. Et ils ont dit, notre mère est en train de mourir. Est-ce que vous voulez prier pour elle ? Vous savez ce qu'ont répondu les anciens ? Ils n'ont pas dit oui. Ils ont dit, nous sommes prêts à le faire à une condition. Vous abandonnez tous vos gris-gris et toutes vos amulettes et vous renoncez à aller voir le marabout. Alors la famille a dit, ah non, non, non. On veut bien ajouter la prière des chrétiens, mais pas le faire à la place d'eux. Je ne sais pas si j'aurais eu le courage de ces anciens, hein, mais ils ont tenu ferme. Alors la famille dépitée est repartie. Mais quand elle a vu que la maman, de jour en jour, déclinait, ils sont quand même revenus. Et ils ont dit aux anciens, d'accord. Voilà, nos gris-gris, nos amulettes, on va les brûler. On renonce à aller voir le marabout. Est-ce que vous voulez bien prier pour notre maman ? Alors les anciens ont dit oui, les anciens de l'église. Et le marabout, figurez-vous, est venu s'introduire en disant, est-ce que je peux assister à la prière ? Parce que je ne veux pas m'en mêler, mais je veux quand même savoir d'où vient votre puissance. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Dans le livre des Actes. Et les anciens ont prié. Et cette maman s'est rétablie, pas instantanément, mais elle s'est rétablie. Et le marabout a dit, vous avez une puissance que je ne connais pas. Et la vieille maman musulmane s'est donnée au Seigneur. Tous dans ce monde peuvent être au bénéfice de la promesse. Mais je vous ai parlé d'une offre sans condition et pourtant je vous dis que la foi est requise. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Réfléchissez un instant. La foi, la confiance est la seule chose qui n'ajoute rien à l'œuvre de Dieu. Car elle est entièrement tournée vers Dieu et ce qu'il a fait. Cette foi n'existe que par lui et pour lui. Quand j'ai foi en Dieu, je ne fais rien en fait. Je ne fais que dire « Ô Seigneur, ce que tu as fait, je l'accueille. » Pour le dire en termes imagés, vous savez, la foi, c'est comme la signature au bas d'un contrat dont Dieu a à la fois, écoutez bien, rédigé et rempli les conditions. Si vous signez, vous n'ajoutez rien à l'œuvre accomplie par Dieu, Mais cela change tout, toute la perspective pour vous qui signez. En effet, apposer sa griffe, c'est remettre sa vie entre les mains de celui qui a livré celle de son Fils bien-aimé pour notre salut. Quand je dis, c'est comme un contrat dont Dieu a à la fois rédigé et rempli les conditions, eh bien oui. Dieu a dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Qu'a fait Dieu ? Il a fait couler le sang de son propre Fils. Et il a dit à l'homme, à la femme, il a dit, crois seulement et tu seras sauvé. Or, cette foi requise qui n'est pas une condition, cette double caractéristique de ne rien ajouter à l'œuvre de Dieu, mais de tout engager de ma vie, fait de la grâce quelque chose de repoussant pour l'homme pécheur. Parce que vous savez, on n'entre pas dans le royaume de Dieu debout et les mains pleines. On y rentre à genoux et les mains vides. Il n'y a aucune place pour l'orgueil, ni pour la prétention à l'indépendance. Nous ne sommes pour rien, mes amis, mais rien du tout, dans notre salut. Et deuxième remarque, cette foi requise, c'est encore Dieu mystérieusement qui nous la donne. Au moment où, touchés par son amour, nous répondons oui à son appel. Vous voulez une preuve ? Nous avons l'impression que nous avons choisi le Seigneur. Vous savez ce que dit le Seigneur ? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Alors, tout bien considéré, la garantie, très sérieuse, celle de la croix, le contenu, très solide, la condition étonnante, la promesse de Dieu n'est-elle pas radicalement différente de celle de ce monde ? Plus j'avance dans la vie et plus je mesure la fragilité et même souvent la vanité des promesses humaines. Un auteur le dit bien, Gilbert Sinoué, il dit « Les promesses d'hommes sont pareilles aux vagues de la mer. Elles meurent aussi vite qu'elles naissent. » Par contre, plus j'avance avec le Seigneur et plus je scrute ses promesses, plus je suis émerveillé par la grandeur de son amour. Et Pâques, que nous célébrons chaque fois que nous prenons ensemble le pain et le vin, le repas du Seigneur, résume admirablement tout ce que Dieu le Père nous a donné déjà en Jésus-Christ son Fils. La libération de la loi du péché et de la mort. Le pardon, la paix, la résurrection et l'avènement de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre où la justice habitera. Y aurait-il quelque chose de plus à espérer ? Pour moi, il y a plutôt à saisir ce qui est déjà promis et que personne ne pourra nous reprendre. Alors j'aimerais dire à ceux qui doutent, levez les yeux vers Christ. Souvenez-vous que nous avons tout en lui. Et renouvelez-lui votre confiance, quand bien même vous traverseriez la déception ou des temps de maladie ou d'épreuve. Mais j'aimerais aussi parler à ceux qui se croient forts. Mes amis, souvenez-vous que ce que vous êtes, vous ne le devez pas à vos propres efforts. Tout est don dans la vie avec le Seigneur. Tout nous est donné par lui. Nous ne pouvons donc pas nous en glorifier. Que le Seigneur nous garde dans une humble confiance que rien ni personne ne pourra nous arracher de sa main. Amen. Je vous invite à la prière. Toi qui n'as même pas épargné ton propre Fils, mais qui l'a donné pour chacun de nous ici présents, nous savons, nous confessons, nous reconnaissons que tu nous donnes tout par grâce, avec le Seigneur. Et nous voulons célébrer cette bonté jamais démentie, quand bien même parfois nos circonstances nous ébranlent. Raffermis ceux qui doutent, Seigneur, et garde humbles ceux qui se croient arrivés, que les uns et les autres nous puissions marcher humblement avec toi dans l'obéissance. Au nom de Jésus, Amen.